Regard sur les transmissions, une série de témoignages de cédants et de cédantes agricoles. Épisode 2. Une page se tourne. Dans ce deuxième épisode, Marie-Pierre et Didier racontent l'histoire de cette ferme familiale qui est restée dans la famille jusqu'à aujourd'hui. Transmettre une ferme, c'est aussi transmettre l'héritage de nos parents, nos grands-parents, ce qui nous a construits, nos frottements et nos évolutions. Pour des éleveurs, c'est aussi transmettre une partie de soi en se séparant de son troupeau. Dans ces circonstances, comment faciliter la transmission d'une ferme, parfois conséquente, en termes de surface, de bâtiments et de matériel? Comment soutenir les éventuels repreneurs? Comment trouver des outils qui rendront possible la transmission? La transmission, c'est toute une aventure.
Mon histoire, c'est l'histoire déjà de mes parents, qui étaient agriculteurs, tous les deux. Et puis, il fallait quelqu'un qui prenne, bien sûr, la suite. Mais que ce fut une expérience, il a fallu faire l'école agricole et tout. Ouais, voilà. J'ai vécu d'autres choses, j'ai fait beaucoup de sport et j'ai eu la chance d'aller au rugby à Brioude. Et vu que j'étais pas trop mauvais, ils voulaient m'embaucher, quoi. Mais bon, mon père ayant des difficultés, des problèmes de santé, j'ai pris la suite, quoi, voilà. En 1987, mon père faisait un petit peu de viande, des génisses de Pâques, comme on appelait. Après, moi, j'ai continué. Bon, il ne faisait pas d'ensilage. Moi, j'ai amélioré, j'ai fait de l'ensilage. J'ai fait du maïs, sorti de l'école agricole. On nous bourre le chou sur les engrais, les désherbants. Et vas-y, il faut produire. Voilà. Puis, j'ai fait quelques bâtiments. J'ai investi dans le matériel et tout. Voilà. J'ai toujours fait, mais toujours du lait. Toujours, ça tombe tous les mois. C'est une paye qui tombe tous les mois, voilà.
Moi, je suis arrivée en novembre 2006. Et après, bon, moi, je travaillais à l'extérieur, notamment sur Issoire. Et en 2007, Didier m'a proposé de le rejoindre sur l'exploitation pour être conjoint collaborateur. Et donc, depuis 2007, je suis donc ici. N'ayant fait aucune école d'agriculture, j'avais ce que c'était un agriculteur, je savais les bases, mais j'avais jamais travaillé vraiment sur une exploitation. Donc il a fallu que je me forme sur le tas. Il y a toute la partie, il n'y a pas que la partie pratique, il y a toute la partie gestion, papier, etc. Donc il a bien fallu que je me forme un peu. Moi, j'ai plus d'approche vers les animaux que vers les cultures. J'aime beaucoup les animaux, donc il y a déjà un lien. Et puis je suis un petit peu focalisée sur le bien-être animal, sur la prévention des maladies, sur l'homéopathie, et puis maintenant un petit peu la communication animale.
L'arrêt des quotas, c'était un déclic dans beaucoup d'exploitations. Quoi. Il fallait, pour gagner pareil, il fallait produire plus. Moi, c'est vrai qu'on me dit faut travailler plus pour gagner pareil. Je me suis dit, c'est pas normal.
Pour tout le monde.
Et il y a 12 ans, il y a la laiterie est passée nous voir et chercher des producteurs qui voulaient se lancer dans le bio. Voilà. J'ai arrêté de faire de la viande, des génisses de viande. Et je suis parti faire du lait bio. Ça a été un changement total, parce qu'il a fallu faire des formations là et tout, sur la vie du sol, parce qu'autrefois, on ne parlait pas tant de vie du sol que ça. Tandis que là, il faut faire des rotations, il faut regarder son sol, comment il réagit par rapport aux céréales, aux luzernes ou aux trèfles violets. Voilà. Après, j'ai arrêté de faire du maïs. Quand on passe en bio, il n'y a plus de désherbants, il n'y a plus d'engrais. Et après, quand tu donnes du maïs, il faut complémenter. Complémenter, il faut acheter du tourteau. Et tourteau en bio, c'est des sommes extraordinaires. Hein. Déjà, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le problème, maïs, il faut de l'eau, il faudra arroser. Il y a le problème du gibier, les sangliers adorent ça aussi. Voilà, il y a énormément. Et puis un maïs coûte cher aussi, coûte cher à produire. Les semences sont chères, voilà, et tout, ouais. Et personnellement, les vaches ne s'apportent pas plus mal. Elles ont donné autant de lait, sans maïs, autant de matière grasse. Après, c'est une autre gestion de l'herbe, des terrains, voilà, c'est une autre gestion. C'est le métier de l'agriculteur qui ressort. C'est l'agriculture, la vraie, qui revient là.
Peut-être la difficulté quand on passe en bio, c'est qu'on se dit qu'il faut être autonome, parce que bah, tout est un peu plus cher. Il faut quand même dire que les deux premières années sont quand même difficiles. Parce qu'on ne connaît pas la réaction, ouais, on peut parler de réaction du terrain, enfin des sols. On ne sait pas où on va en fait. Hein. C'est qu'au bout de 2-3 ans qu'on sait gérer la vie du sol, tel terrain, on va pouvoir semer de l'herbe, etc. Et après bah, ça roule tout seul hein, en fait. Donc il faut aussi chercher l'autonomie et puis l'atteindre. En fait, là, on l'a atteint. Donc, depuis très longtemps, on a atteint l'autonomie sur la ferme. Voilà.
On est très content parce que ça marche très bien. Et bon, après, c'est une autre agriculture. Avec le bio, on gagne. On a gagné. Oui, si. Bon, je vais pas honte à le dire. On n'a pas fait faillite. On a bien gagné toute notre vie. Bon, ça m'a permis d'arrêter de faire des bêtes de viande, quoi. Voilà. C'est une autre gestion. Mais bon, le bonheur se passe par là, c'est bien.
L'approche des bêtes, enfin des vaches, quand on élève, eh ben c'est facile parce qu'on les a de la naissance, on les apprivoise. Bon, après, bah, les petites génisses, quand il faut les emmener au pré, bah, on prend le temps. Alors, on prend du temps, c'est sûr, mais on les emmène comme ça, elles ont l'habitude de suivre. Et là, bah, tout le troupeau, ça nous suit. Enfin, tout le monde nous suit, mais comme si on avait bah, nos chiens, en fait. On n'a pas besoin de bâton, on n'a pas besoin de rien. En fait, elles sont... Voilà, on les appelle, elles viennent. Après, effectivement, le travail en amont est peut-être un petit peu plus long, quoi. Bon, bah, quand elles sont petites, c'est là qu'il faut éduquer, qu'il faut dire, bah, allez, on y va. On va passer une demi-heure, peut-être une heure, pour que les apprendre à suivre. Mais bon, c'est du temps aussi gagné plus tard, quoi.
C'est vrai qu'on a... On n'a pas sélectionné sur vraiment la quantité de lait. On a toujours sélectionné sur des vaches rustiques avec la bonne qualité de lait, qualité en matière grasse, topotéique, voilà. Bah, c'est vrai que les vaches, nous autres, marchent tous les jours, voilà. Les prés ne sont pas tous autour de la ferme. Et on a sélectionné sur ça, sur une bonne aptitude à la marche, sur, voilà. Et ça, c'est... Toute cette sélection qu'on a fait depuis de nombreuses années, quoi, ça se fait pas en 10 ans, c'est sur 40 ans.
Il y a quelques années, on avait des limousines, on en avait 3. Et en fait, on a une limousine qui avait les dans le pré. Du coup, quand on a été chercher le troupeau, on a dit, bon, bah, on va la laisser tranquille avec son veau. Et puis on va aller chercher une remorque, le petit veau et tout ça. Et en fait, ce qui c'était extraordinaire, c'est qu'en fait, les deux vaches limousines se sont mises entre le veau et elles ont ramené le petit veau ici. C'était très, très chouette, en fait. Et elles le protégeaient, en fait. Et il n'y en avait pas une qui avançait plus vite que l'autre. C'était vraiment... Ça a été extraordinaire, hein. Ça fait partie des choses. Enfin, voilà, on se dit, c'est super, quoi. Bon, il y avait Anatole aussi, mais bon, on n'a pas pu le garder. On avait.
C'était au moment où la transition, qu'on passait en bio. Ouais. Je faisais encore de la viande. Et, j'avais un bœuf, un croisé salaire, immense, mais gentil comme un agneau.
C'était.
Et on avait eu cherché, on connaissait un peu quelqu'un là qui faisait de l'attelage de bœuf.
Mais bon,
il n'a pas pu le prendre. Parce que il était typé salaire. Et il faisait près de 2 mètres au garon, il était immense. Et,
mais par contre, il était...
Gentil, on l'appelait Anatole, et quand on l'appelait, il venait là, pouf, pouf, pouf.
Il nous suivait vraiment comme un petit chien, c'était vraiment... Enfin, il y a eu des moments très très chouettes avec les animaux, quoi. C'est vraiment... C'est extraordinaire quand il peut se passer des choses magiques comme ça, quoi.
Ben, quand on les aime, ils le savent, hein, ils le rendent. C'est un... ça serait... Je dis personnellement, ça serait dommage que ça s'arrête comme ça. Quoi. Voilà. On ne peut pas travailler jusqu'à 90 ans. Hein. Non. Il faut laisser un peu la place aux jeunes qui.
Qui voudraient bien.
Il y a pas mal de jeunes qui sont motivés, ouais. Si, 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 mais après, bon, ça va être les moyens, mais enfin, après, moi, on trouvera des solutions, je pense, pour transmettre, voilà.
Parce que, il peut y avoir plein de jeunes qui veulent acheter, mais s'ils ne peuvent pas le faire, ou s'ils s'endettent pendant 20 ans ou 30 ans, c'est quand même un problème, quoi. Acheter une ferme, c'est compliqué, parce que, ça coûte cher, ça peut freiner beaucoup de monde, quoi, enfin... C'est quand même dommage que dans nos campagnes, on parte à l'agrandissement. Parce que c'est des agriculteurs qui ont 300 ou 200 hectares. Et en fait, c'est un petit peu, moi je trouve que c'est un petit peu bête de ne pas garder les petites exploitations, les petits troupeaux, le bien-être animal, enfin tout ce qu'on a pu construire. Voilà, et par ici, c'est quand même l'agrandissement qui prime, quoi. Et ça serait, c'est vrai que ça serait très chouette si on pouvait installer quelqu'un, et voilà, enfin. Pas à moindre coût, parce que c'est pas. Enfin, ça peut pas être, mais avec des. Avec des concessions, avec des allègements, je sais pas, moi, enfin, voilà. C'est pour ça que, finalement, si quelqu'un s'installe et ils veulent la maison, on est prêt à... De toute façon, il n'est pas bon de rester sur une exploitation quand on a transmis. Et parce que, c'est une gêne pour les deux parties.
Il y a deux jeunes qui voudraient partir sur la transformation, garder le même troupeau et faire de la transformation.
En bio.
En bio, bien sûr. Voilà, ouais.
Donc, ça serait bien.
Ouais, une cinquantaine d'hectares avec, si ça les intéresse, le matériel, les animaux, voilà. La maison, parce qu'il faut bien se loger. La génétique qu'on a apportée, déjà, ça plaît très bien aux personnes, quoi, voilà. C'est vrai que la rusticité, la qualité du lait, ouais, c'est déjà bien. Déjà, pour transformer du lait, c'est ça. Alors déjà, c'est une bonne chose, déjà. Voilà. Ça veut dire que je n'ai pas trop mal travaillé.
Mais après, il faut qu'elles fassent leur étude, qu'elles voient le financement et tout. Après, on est prêt quand même à faire des concessions. Il faut quand même dire qu'on ne va pas assommer. Il y a peut-être des différentes façons de faire. Soit vendre tout, soit oui. Terre de lien, soit location, soit on essaie de voir ce qui serait le plus juste pour qu'elle puisse s'installer, quoi. Mais on se pose 1000 questions aussi. Comment, pourquoi, comment ça va se faire? Est-ce qu'il y aura des... Voilà. Est-ce qu'il y aura quelqu'un? Comment ça va se passer? Après, y a toujours une appréhension de dire, notre troupeau, si c'est notre troupeau qui est repris... Est-ce qu'il va être bien? Est-ce que... Voilà, il y a plein de... Ouais, je dis, il y a 1000 questions qui se posent quand même. Dans la tête, ça fusionne. Après, il faut faire confiance aussi aux repreneurs, quoi. Ce qui est normal. Ils auront une façon différente de travailler. Ils auront d'autres réflexions. Ils peuvent amener un plus. Après, l'idéal, dans l'idéal, ça serait aussi de prendre quelqu'un en parrainage. Dire, eh ben voilà, nous on fait comme ça, mais comment vous feriez-vous? Comment, voilà, un échange pendant 6 mois, 1 an, parrainer, dire voilà, nous on fait comme ça, mais peut-être qu'on peut améliorer un truc, peut-être qu'on peut faire autrement. La solution du parrainage est quand même une bonne idée, je pense. Enfin, ça serait super. Puis bon, quand il y a un parrainage, on peut se dire, eh ben, pendant 2 jours, on laisse faire la personne, voir comment ça se passe. C'est aussi un petit peu lâcher prise, tout doucement.
Oui. Ben, déjà connaître un peu tous les terrains, ouais. Il y en a qui sont très bons, d'autres un peu moins, voilà. Ouais. De visu comme ça, tout est beau, tout est joli, mais après il faut rentrer dans le vif du sujet, quoi, voilà, comme on dit.
Puis ça apprend à se connaître aussi. Mmh. On apprend à travailler ensemble, on transmet voilà, notre savoir, mais vice-versa en fait, et tout. Enfin, moi je pense que ça peut être très sympa à faire. Après, il ne faut pas que les gens qui veulent s'installer se disent être agriculteur, ça va être le bagne toute sa vie, parce que il va falloir travailler tout le temps. Non, enfin, faut voir aussi que y a une partie du travail, mais il n'y a pas que le travail, il y a aussi on a du temps pour soi, on peut gagner sa vie, on peut. Enfin, je pense qu'il faut quand même leur dire que tout ça, quoi. Ça ne va pas être travailler H24, ça ne va pas être je galère au niveau financier. Enfin, la vie d'un agriculteur, à notre époque, est tout à fait normale. Peut-être pas comme un salarié, mais enfin, maintenant, il y a les services de remplacement, les gens peuvent partir en vacances. Enfin, il y a quand même plein de moyens qui sont mis en place pour qu'il y ait une vie normal, quoi.
Des fois, il y a des mauvais moments, on peut se décourager. Mais il y en a tellement de bons. Parce que après, agriculteur, c'est nourrir les gens. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui l'ont oublié, ça, beaucoup de personnes. C'est l'agriculture qui nourrit la population. Et ça, je pense qu'il faut en être fier.
Après, c'est quand même un beau métier. Parce que c'est la nature, c'est la terre, c'est la vie, c'est quand même quelque chose de beau, quoi. Enfin, voilà, puis il faut pas le voir, faut le voir avec une passion, et que c'est un beau métier. On aurait eu des enfants, ou on aurait... La suite derrière, ça ne veut pas dire qu'ils aient repris la ferme. Hein. Y a des exploitants qui ont des enfants et les enfants, ils partent ailleurs. Hein. Après, on peut comprendre que Didier, ça lui fait mal au cœur parce que c'est sa vie, c'est une grande page de sa vie qui va se tourner. Mais que faire, quoi ? Enfin, à un moment donné, la décision, il va bien falloir, faut la prendre, quoi. Et si justement, au contraire, si cette ferme elle revit, c'est quand même. Vaut mieux quand même qu'elle revive qu'elle se ferme complètement. Parce que rester ici à la retraite sans animaux, mais ça va être terrible, quoi. Enfin, voir des bâtiments complètement vides, je pense que c'est encore pire que de transmettre et puis d'avoir une autre vie, enfin. Moi, je le vois comme ça. Après, effectivement, il va y avoir... Ça va être compliqué, mais... Dans la vie, faut tourner la page. Et l'inconnu fait toujours peur. Ou pas.
Les témoignages que vous écoutez ont été réalisés dans le cadre du projet Courroie de transmission, porté par le CELAVAR Auvergne-Rhône-Alpes. Merci à Marie-Pierre Sébastano et Didier Cole pour leur témoignage. Cette série a été réalisée par Florian Revol de l'association La Calligramme, accompagnée par Christine Pack de l'association DASA. La musique est une création originale de Swan Nedelec. Illustration pour la vignette du podcast Les Savoirs Ambulants. Si vous avez un projet de transmission ou d'installation agricole en Auvergne, n'hésitez pas à prendre contact avec l'association DASA via notre site associationdasa.fr.